Pour ce taré aux pages sur Radio FM Plus 91 FM à Montpellier, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Guillaume Méric, qui est un auteur de saga fantasy, l'auteur de Myriande, qui s'inspire du mythe des âmes sœurs. Voilà, mais on va beaucoup en discuter. Bonjour Guillaume Méric.
Bonjour.
Merci d'avoir affronté la neige, bientôt la glace.
Oui, c'était déjà toute une aventure pour venir.
C'est ça. Alors, Guillaume Méric, je vous reçois parce que vous publiez le tome 2 de cette saga que vous avez intitulée Myriande. Le tome 2 s'intitulant Le gardien de l'âpre monde. Alors, s'il y a un tome 2, c'est qu'il y avait un tome 1.
Ah oui, tout à fait.
Il y avait un tome 1. Alors, quel était le titre de ce tome 1 ?
Le tome 1 de Myriande était Le secret des âmes sœurs.
Déjà, donc, c'était déjà la thématique de ce mythe des âmes sœurs.
Oui, alors je me suis inspiré du mythe de Platon, qui était dans le discours d'Aristophane, qui parlait d'êtres merveilleux, qui vivaient dans l'opulence et dans une sorte de... d'épanouissement total. En fait, c'est un peu particulier parce qu'ils avaient quatre jambes, quatre bras, deux têtes, et ils vivaient dans une paresse totale. Et Zeus, qui était très très énervé par tout ça et qui avait besoin d'être imploré par eux, en fait, il a décidé comme ça du jour au lendemain de les couper en deux. Et les coupant en deux, du coup, les uns et les autres sont mis à se rechercher. Ils sont sortis de leur état de paresse et ils sont devenus un peu les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui, chacun à la recherche de sa moitié.
Alors il faut être philosophe pour lire cette saga fantasy, Myriande ?
Non, non, il n'y a pas besoin.
C'est votre histoire à vous de...
Oui, moi je me suis vraiment librement, très librement inspiré de ce mythe. Et après j'ai raconté ma propre histoire, ma propre vision des âmes sœurs, qui est un mélange... De mythologie et de fantasy. Et je trouvais ça à l'origine intéressant de mêler ces deux univers qui sont pas forcément qu'on rencontre pas forcément ensemble. Et j'en ai fait cette histoire qui me tenait beaucoup à cœur puisque j'avais vraiment envie de parler des âmes sœurs parce que j'en avais connu une ou moi-même par le passé. Et c'était une manière un petit peu de me guérir de cette vieille blessure de manière à de cette obscurité à faire de la lumière, en fait.
Alors, vous dites que vous aviez connu vous-même une âme sœur dans cette vie-là.
Oui, oui, là,
c'est,
oui.
Ça. C'est ça. Alors, comment ça se passe quand on rencontre une âme sœur?
Je crois qu'on ne s'en rend pas forcément compte au début, surtout que ça m'est arrivé très jeune. Et il y a des choses tellement évidentes qui se crée entre les deux personnes, enfin entre soi et la personne qu'on aime, qu'on finit par même plus se poser justement de questions. On vit cette relation, cet amour fusionnel dans un naturel total. Et après, les âmes sœurs, c'est encore d'autres choses. Quand on se penche un petit peu sur le sujet, on apprend que on peut être en totale opposition avec une âme sœur qu'on va rencontrer dans cette vie parce qu'on a des choses à régler avec elles qui se sont passées dans une autre vie, si on croit ces choses-là, et avec qui on peut se faire beaucoup, beaucoup de mal dans cette vie, mais pour réparer des choses qui sont plus anciennes.
Alors l'idée de cette saga est-elle venue, elle est venue après cette rencontre ?
Oui.
C'est ça, d'accord. Alors, je crois qu'on ne peut pas parler de ce deuxième tome, Le gardien de l'âpre monde, sans peut-être un peu évoquer le premier tome. J'imagine que c'est une suite, ou est-ce que l'un et l'autre des volumes peuvent se lire séparément ?
Non, c'est vraiment une suite. Le premier tome s'achève, il s'achève et quand sur le second tome on enchaîne directement sur ce qui s'est passé à la fin du premier. Donc c'est vraiment une trilogie, puisqu'il y aura un troisième tome, qui se suit, qui est écrite, puisqu'il se trouve que j'ai travaillé dessus il y a longtemps. Le premier tome a connu une première vie, pour tout vous dire, chez un éditeur d'ailleurs régional, qui était le Dialogue Vauvert, en 2010. Qui avait rencontré son petit succès, mais qui malheureusement n'a pas eu de suite parce qu'on a eu quelques différends à l'époque avec l'éditeur. Et il se trouve qu'après, quelques années plus tard, j'ai récupéré mes droits sur ce fameux tome. Et Donc l'an dernier, je l'ai ressorti de manière différente, améliorée, enrichie, parce que j'y ai travaillé avec d'autres personnes, des illustrateurs, un compositeur, voilà, pas mal de gens. On en a fait une version améliorée et on est passé pour ça par un site de financement participatif qui est bien connu de ce milieu-là, qui s'appelle Ulule, qui nous a permis de financer le nouveau tome 1 et l'album qui lui est associé.
Alors là, aujourd'hui, cette trilogie est publiée, enfin sera publiée chez vous,
Oui.
dans une maison d'édition que vous avez créée pour cette saga.
J'ai pas créé maison d'édition, disons que c'est une association qui a fait office de maison d'édition, c'est pas sa vocation première, mais c'est par ce biais-là en tout cas que j'ai réuni toute mon équipe qui travaille avec passion avec moi dessus et c'est devenu une aventure collective qui est passionnante. Qui est harassante aussi, parce que c'est un travail monumental que, il y a le fait d'avoir écrit l'histoire, mais après, il y a tout ce qu'il y a à côté, parce que bon, les personnes qui travaillent avec moi dessus, il faut les diriger, il faut leur dire, voilà, ça se passe comme ci, comme ça, des illustrations, je veux ci, je veux ça, la musique, c'est pareil. En plus, bon, comme il y a eu, à côté de ça, un petit projet cinéma, d'adaptation cinéma, ça avait réuni encore d'autres personnes. Bon, voilà, c'est une tranche de vie, en fait.
Alors, si je comprends bien, là, j'ai sous les yeux le livre, hein, Myriande, le gardien de l'âpre-monde, mais je comprends que au-delà du livre, il y a un site internet, un disque, un film. Comment ça s'organise tout ça? J'ai repéré les noms des artistes qui vous entourent, Christophe Houssin,
Le compositeur, oui.
Cyril Barrault,
L'illustrateur de la couverture du tome 2, oui.
d'accord, Michel Bordery.
Michel Bordery, qui lui s'est chargé des illustrations d'annexes, parce que chaque tome comporte des annexes en fin d'ouvrage, qui permettent justement de découvrir des illustrations, des croquis en noir et blanc, mais aussi d'aller plus loin que l'histoire, puisqu'on va dans l'univers étendu, c'est-à-dire on peut aller découvrir l'origine, par exemple, des trois cités qu'on rencontre au début du tome 1, parce qu'on est totalement immergé dedans quand on découvre l'histoire. Mais si on veut savoir un petit peu plus d'où viennent ces cités, comment elles ont été construites, pourquoi elles ont été érigées sur les cimes d'anciens cratères, par exemple, pourquoi ils ne sont pas simplement essayer de bâtir leur cité sur la plaine, voilà, on en sait un petit peu plus sur ces origines-là.
Isabelle Pecaud, Christophe Civet.
Oui, Isabelle Pecaud, on s'est connu sur Facebook. C'est une illustratrice semi-pro qui est surtout spécialisée dans le portrait, mais aussi dans le portrait un peu féerique. Du coup, ça tombait très bien parce que par rapport justement à ces Myriandes qui sont des êtres merveilleux, qui allient en fait deux âmes et qui donnent une espèce d'être de lumière un peu angélique, tout ça, et ça allait très bien avec son style, puisque voilà, elle avait cette patte-là très, très poétique, très féerique, et elle a travaillé sur l'illustration de Myriande, et d'un petit personnage aussi du tome 2. Et vous parliez de...
Christophe Civet.
Oui, alors Christophe Sivet, lui, il était à l'origine vraiment du projet. C'est lui qui a démarré avec moi les illustrations, qui a créé le design en fait des Myriandes eux-mêmes, qui a eu l'idée d'ailleurs des tatouages qui se retrouvent sur le corps des Myriandes et qui sont propres à chaque Myriande, qui ont une histoire eux aussi, ces tatouages. Et d'ailleurs, tatouages que les contributeurs Ulule de la seconde campagne ont pu se payer, pour certains. C'est un petit tatouage, ouais, que j'ai fait faire, qui est en fait le blason de certaines créatures qu'on rencontre dans le tome 2, qui ont un rapport très, très étroit justement avec ces tatouages. Et je trouvais intéressant de pouvoir proposer ça au lecteur.
Guillaume-Éric, je vous propose que nous fassions une pause musicale avec le thriller qui accompagne la sortie du tome 2, Le gardien de l'âpre-monde de Myriande, et nous reviendrons peut-être un peu plus en détail sur l'histoire elle-même.
Bien sûr.
Thank you.
L'aréopage sur FM+, 91 FM à Montpellier, avec Guillaume Méric, auteur de Myriande, une saga fantasique dont il vient de paraître le deuxième tome, Le gardien de l'âpre-monde. Alors, tous les deux, Guillaume Méric, nous avons évoqué les différents artistes qui travaillent auprès de vous, parce qu'il faut le dire, c'est pas seulement un livre, c'est aussi de la musique. On vient d'en entendre un exemple là à l'instant, ce sont des dessins, c'est tout un univers que vous recréez, un monde à lui tout seul.
Oui, je pense que j'ai toujours été passionné par le 7e art, avant de me mettre à la littérature, le fait de lire des bouquins, j'étais le grand désespoir de ma mère qui était prof de français, parce que pendant toute mon adolescence je ne lisais rien. Si ce n'était des BD.
Elle doit être heureuse aujourd'hui de voir que son fils écrit.
Ah oui, c'est la consécration, ouais, pour le coup.
C'est ça.
Ah ouais. Et oui, finalement, j'ai fini par me tourner vers l'écriture parce que je me suis rendu compte que c'était la source de toutes les histoires. J'avais envie de raconter des histoires, et finalement, le livre, c'est ce qui offre le plus de liberté, puisqu'il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas tous les moyens que peuvent demander les autres supports. Et je me suis mis à cette écriture. Mais bon, voilà, malgré tout, le naturel revenait au galop.
Vous faites intervenir beaucoup d'artistes.
Voilà, j'ai eu besoin de donner corps, de matière un peu plus à cette histoire. Et que ce soit les illustrations ou que ce soit la musique, ces deux domaines ont amené une richesse supplémentaire à cette histoire pour la rendre plus réelle, quelque part plus palpable.
Alors nous l'avons dit, hein, ça, vous partez de la thématique des âmes sœurs, vous en avez évoqué l'origine de ces mythes, mais quelle est au fond l'histoire que vous avez créée à partir de ce concept philosophique?
Alors l'histoire commence en fait avec un petit garçon et une petite fille qui s'appellent Sisam et Elia, qui vivent une amitié absolument extraordinaire, ils sont inséparables.
On est dans quelle période de l'histoire?
On est dans un monde
dans le futur.
On est dans un monde imaginaire qui est plutôt dans le passé et qui se rapprocherait quelque part de la Grèce antique. Voilà. Et donc ces enfants vivent cette amitié-là absolument extraordinaire. Et puis un soir, la petite fille est enlevée, kidnappée par des êtres un peu bizarres, encapuchonnés. Et elle disparaît pendant plus de 10 ans. Et au bout de 10 ans, en fait, Sisam va la retrouver dans les rues de sa cité, pourchassée par les soldats de la cité. Il va lui offrir asile, et ensemble, ils vont apprendre pourquoi ils ont été séparés quand ils étaient enfants. C'est parce qu'ils sont des âmes sœurs, mais qui ont une faculté particulière, qui est celle de pouvoir devenir un Myriande. Un Myriande étant un être donc, qui permet d'allier leur esprit, leur corps, un seul et même corps, avec des pouvoirs de légende, avec une mémoire ancienne. Et malheureusement, ces êtres-là, ils sont pourchassés, ils sont interdits au sein des cités. Ils vont apprendre pourquoi. Ils vont devoir apprendre un petit peu plus de ce qui concerne leur lien, le lien qui les unit, qui vont leur permettre peut-être de se libérer, de vivre leur relation normalement, et de libérer les autres âmes sœurs qui sont elles aussi prisonnières en secret de ces cités.
Le premier tome s'arrête à quel moment de l'histoire? Juste à ce moment-là où...
Ah non, ça c'est le tout début.
C'est le tout début.
Enfin, c'est le tout début. Quand ils se retrouvent, c'est le premier tiers.
Voilà. D'accord.
Et puis après, il y a toutes les péripéties qui s'en suivent, les alliés qu'ils vont rencontrer, les gens qui vont leur donner un certain enseignement, et puis des personnages beaucoup moins sympathiques qui vont croiser leur route et qui vont les conduire à... vivre leur aventure personnelle.
Alors, où se loge votre plaisir d'écriture, Guillaume Méric? Est-ce que c'est dans la fascination de recréer ce monde antique? Est-ce que c'est dans les aventures que vont suivre vos personnages? Ou est-ce que finalement ça se greffe votre écriture en particulier?
Où est-ce que je prends mon plaisir dans cette écriture?
Oui, c'est ça. Est-ce que c'est plutôt dans le fait de raconter une histoire, de replonger dans une période antique, comme vous le disiez?
C'était vraiment l'envie de raconter une histoire, comme j'ai toujours eu envie de le faire, que ce soit dans tous les domaines. J'avais écrit une comédie musicale aussi il y a quelques années. Et c'est toujours ce besoin de raconter quelque chose. J'aime bien tout ce qui concerne les univers de l'imaginaire. J'aime bien ce qui fait rêver, en fait, tout simplement. Parce que moi, j'ai aussi besoin de rêver dans ce monde très, très matérialiste. Et là, pour le coup, j'ai beaucoup été inspiré, à l'époque, par Le Seigneur des Anneaux. Je pense que c'est vraiment ces films et ces livres qui ont été le détonateur dans mon envie d'écrire cette histoire. Justement, j'ai voulu que ça se passe dans un univers antique pour sortir du cadre du médiéval fantastique, qui est très classique en fait dans
C'est
le
ça,
genre.
cadré avec
Ouais, très
des
traditionnel,
règles de voilà.
on se retrouve avec des dragons, des elfes, des nains, tout
Oui,
ça.
c'est ça.
Il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'auteurs qui avaient fait la même chose avec beaucoup plus de talent que je l'aurais fait à leur place. Donc j'ai voulu créer mon univers à moi avec des êtres merveilleux mais qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Si ce ne sont peut-être des phénix, c'est un moment qu'on va croiser dans l'histoire, mais des phénix pas sympas du tout.
Alors là, vous l'avez dit, il y a une trilogie, trois volumes, ils ont tous environ 400 pages, comme celui que j'ai entre les mains. Un plus que ça, 540 pages, c'est à peu
Ouais,
près le volume, hein.
voilà,
Voilà.
c'est à peu près le
Donc
volume.
les 1500 pages, vous les avez déjà dans votre tête avant de les éditer, ou est-ce que ça se construit au fur et à mesure que vous avancez?
Alors, quand j'ai écrit l'histoire il y a donc il y a, bon, 15 ans à peu près, quand j'ai
Ouais.
commencé à écrire le début, les prémices, je savais comment ça allait se finir.
D'accord.
Ça, c'est ce qui m'importait le plus, parce qu'il y a un personnage récurrent qui est à l'origine un petit peu de tout ce mal qui fait que les âmes sœurs sont séparées. Donc je savais comment tout ça se devait se terminer. Après, les dédales par lesquels ça devait passer, c'était beaucoup plus...
Incertain.
Beaucoup plus incertain, oui. Ça s'est construit au fil du temps. Par contre, j'ai besoin pour chaque tome, à chaque fois, d'écrire une sorte de canevas qui va me permettre après de savoir où je vais. C'est très important parce que sur un univers aussi vaste, on a au moins besoin de ça pour se cadrer. Et on a besoin aussi de ce qu'on appelle une bible scénaristique, comme on le fait dans le cinéma, qui vous permet d'avoir en fait les lieux, les divers lieux où vont se retrouver les personnages, les races et les civilisations, les créatures, savoir leurs mœurs et coutumes, savoir comment ils fonctionnent, connaître leur histoire, leurs
Créer un
origines.
monde, finalement, créer tout un monde.
Ah, il faut créer tout un monde, ouais. Et pour soi-même s'y retrouver et pour que le lecteur ne s'y perde pas,
Ouais.
on a vraiment besoin d'avoir tout ce travail-là en amont. Ouais.
Et puis, il faut que ça reste cohérent.
Oui.
Peut-être ne pas vous oublier qu'un personnage, peut-être, est mort et
Ah
tu te...
oui.
Voilà.
En général, on risque pas de l'oublier, mais quand même,
Ouais.
parce que chaque personnage a son arc narratif, comme dans le cinéma, c'est pareil, on sait où il commence, on sait où il finit, et par quelles épreuves il doit passer pour arriver à ses fins. Donc tout ça est présent, et moi, en plus je déteste avoir une histoire où des sous-intrigues ne sont pas résolues, par exemple. On est dans l'intrigue principale et on va oublier les petites
C'est
choses
ça.
qu'on a laissées en cours de
Ça, c'est
route.
très décevant pour le lecteur.
Voilà, parce que certains lecteurs vont s'attacher à un personnage dont vous ne soupçonnerez pas, qui puisse avoir un plus grand intérêt que celui que vous lui avez accordé. Et du coup, le lecteur se dit, ah ben mince, qu'est-ce qui lui arrive à lui?
C'est ça, il l'a oublié en cours de route.
Ah oui, non, ça,
Ça
c'est
ne
pas
va pas,
possible.
ça ne va pas. Alors, et justement, est-ce que vous avez des retours des lecteurs qui ont déjà lu le premier tome?
Ah, j'en ai eu un certain nombre, oui. Parce que déjà, il est sorti, comme je vous l'avais dit précédemment, il y a presque, enfin, il y a 8 ans de ça. Donc j'ai vu les retours de ces lecteurs-là, qui étaient plutôt enthousiastes pour la plupart. Bon, ça peut pas plaire à tout le monde, bien évidemment, mais en tout cas, ceux qui aimaient ce genre-là n'ont pas été déçus. Et pour le tome 2, c'est encore trop tôt, hein, il vient à peine
Bien
d'être
sûr.
publié, donc j'ai pas encore vraiment de retour, si ce n'est de certains proches. Mais je sais...
Qui sont les plus durs en général?
Ouais, pour certains, oui. Ça peut être, des fois, c'est un peu difficile, ouais. Mais d'une manière générale, on m'a dit que les trois volumes ont évolué en même temps que moi. Ils ont gagné chacun en maturité au fur et à mesure. Donc ça va bien parce que avec les romans, puisque du coup, l'histoire se complexifie et devient plus adulte quelque part au fur et à mesure qu'on avance dans la trilogie. Et c'est une bonne chose aussi vis-à-vis du lecteur. Puisque lui-même aussi va grandir dans sa propre vie, avec les livres qu'il va lire. Et voilà. Par contre, j'avais besoin de garder une cohérence de ces trois tomes. Donc, comme l'écriture s'est passée sur plusieurs années, j'ai dû réécrire en fait le tome 1 et le tome 2 de manière à ce que les trois soient vraiment cohérents.
Oui. Guillaume Méric, au-delà de l'intérêt de l'histoire, de la narration, du récit qui s'installe, est-ce que vous aviez un projet de faire passer un message philosophique, moral, que sais-je, sur, avec la fin de l'histoire, probable peut-être, mais peut-être aussi au milieu, est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que vous aviez une autre intention que purement de raconter une histoire ?
Alors, il y a une phrase qui revient tout au long du récit, qui est dite par plusieurs personnages. C'est « Nos racines sont toutes nouées autour du même arbre ». Et c'est une symbolique qui j'ai trouvée importante, parce que cette histoire, elle parle bien évidemment d'amour, sans le côté gnangnan qu'on pourrait imaginer sur une histoire sur les âmes sœurs. Pas du tout, ça c'est d'ailleurs un retour que j'ai eu très souvent de la part des lecteurs. J'ai toujours eu une attirance particulière pour la vie après la vie. Donc la notion de vie intérieure qui est, je pense, assez indissociable de celle des âmes sœurs, puisque si on a une âme sœur, ça veut dire qu'on l'a rencontrée avant. Donc ce message-là, je pense que c'est celui-là que j'ai voulu faire passer, c'est donner une sorte d'espoir, de se dire que quelque part, la mort n'est pas la dernière fin.
Ça ne s'arrête pas là où on croit que ça va s'arrêter.
Voilà, c'est juste un pas qu'il faut franchir, voilà. Et ces âmes sœurs représentent ça en fait, c'est cette possibilité d'accéder à autre chose, se dire qu'on fait partie d'une famille d'âmes qui ont la possibilité de se retrouver plus tard dans une autre vie, et du coup que les actions qu'on peut avoir dans cette vie-là ont des répercussions positives ou négatives dans l'au-delà, dans d'autres existences, et qu'on doit en tenir compte tous les jours, dans notre quotidien, dans les gens avec qui on vit, avec qui on travaille. Je pense que c'est important de se rendre compte de ça, parce que chaque petite intention, chaque petit geste de la vie a son écho ailleurs.
Je vous propose que nous nous arrêtions là, Guillaume Méric. Je vais aussi annoncer que nous pouvons vous retrouver à Montpellier, à la librairie Gibert, samedi 3 mars.
S'il y a le temps et la météo sont avec nous.
L'après-midi, je crois. Hein. Samedi 3 mars, vers 15h.
C'est ça, à 15h, normalement jusqu'à la fermeture en général. Je suis assez généreux sur le sujet.
Voilà, vous pourrez dédicacer, parler de ce deuxième tome et du premier.
Voilà.
Merci à vous, Guillaume Méric.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.